Alors, avant d'attaquer le sujet One Life All In, est-ce que tu peux un peu nous préciser ton parcours et en particulier, pour commencer, qu'est-ce qui t'a décidé à te mettre à la batterie?
Alors j'ai attaqué la batterie à l'âge de 5 ans. Pourquoi j'ai attaqué, je pourrais même pas te dire tellement ça remonte. Je sais que déjà tout le monde, en fait, je tapais sur les casseroles avec les cuillères en bois et tout ça. Enfin, vraiment le parfait cliché du bébé qui voulait jouer de la batterie, quoi. Et puis j'ai jamais arrêté. Après j'ai fait des groupes. J'ai participé à 12 ans, en fait, j'avais mon premier 12-13 ans, ouais, j'ai eu mon premier groupe de punk rock. Et puis à 17 ans, après, j'ai complètement switché. J'ai joué dans un groupe qui s'appelle Be Nighted, du death metal, voilà, dans lequel j'ai joué 10 ans. Et puis après, j'ai fait de la session à droite à gauche, avec Sepultura, Abbath, Sabaton, ou des groupes de metal, quoi, vraiment. Et puis aujourd'hui, j'en suis là, du coup, avec One Life All In. Et
D'accord.
puis là, l'EP sort aujourd'hui, du coup.
Ok. Et comme tu disais assez vite, donc le rock t'a intéressé. Est-ce qu'il y a, t'avais un batteur de référence, t'avais un groupe ou un artiste qui a déclenché le...
En fait, petit, mon batteur préféré, c'était Ian Paice, de Deep Purple. J'étais vraiment fan de lui, Bonham aussi, de Led Zepp. Les deux premiers CD que je me suis acheté vraiment avec mon argent de poche, c'était le premier Van Halen et le premier Motörhead. Et puis,
D'accord.
de toute façon, enfin, mes parents m'ont éduqué au rock, en fait, c'est des rockers aussi. Donc, j'ai suivi la trace formée par mes parents, c'est clair.
Et ton entrée dans la partie la plus extrême?
C'est pour les années lycée, de toute façon, mais c'est Be Nighted, quoi. J'ai découvert, en fait, le plus extrême, la musique la plus extrême en jouant, en fait. Au final, je connaissais pas tant que ça. C'est juste que Be Nighted, j'étais en session d'enregistrement dans leur local de répète, en fait. Puis on a entré en contact comme ça via un ami en commun. Et puis c'est en jouant que j'ai découvert. Je connaissais un petit peu Napalm Death un petit peu avant, quoi, mais au final je connaissais même pas les albums les plus extrêmes. Je connaissais Diatribe ou des trucs comme ça. Et puis à cette époque j'avais 17 ans, et puis là j'ai découvert, ouais, l'extrême à partir de ce moment-là.
D'accord. Donc, mais bon, on découvre Be Nighted, on se met, enfin, on s'adapte à leurs besoins et à leur niveau, mais au niveau technique, c'est très particulier par rapport à Deep Purple, etc. Donc,
C'est clair. Non,
assez tôt, t'as développé un jeu assez large pour te dire je fais un peu de tout et où.
vraiment jusqu'à 15-16 ans, en fait, même 17, je jouais rock, punk, tout ça. Et puis, quand il y a eu l'occasion de Be Nighted, en fait, c'est à partir de ce moment-là, oui, j'ai bossé vraiment la double pédale et le blast pour jouer de l'extrême. Et puis, j'ai appris sur le tas, quoi. Après, c'est sûr que si on me refaisait écouter mes premiers concerts avec United, je serais pas super fier et tout. Et puis, forcément, après, en bossant,
D'accord.
je suis parvenu à un niveau plus correct, on va dire.
Donc voilà, donc c'est une série d'opportunités qui t'a fait évoluer même dans ta technique.
Ouais,
D'accord.
exactement.
Tiens, une petite question pour un non-musicien. Dans cette période bizarre actuellement, est-ce que, ou même en général, est-ce que tu pratiques ton instrument tous les jours?
Non, je peux pas. J'ai rien avec moi, en fait.
Ah.
En fait, la situation, c'était que juste avant le confinement, j'étais en train d'enregistrer l'album de Loadblast, en fait, parce que leur batteur Hervé est blessé. Donc du coup, par chance, en fait, on a fini les prises batterie en avance. Donc j'ai fait le trajet du studio qui est vers Nantes jusqu'à Clermont, en fait, là où je suis confiné. Mais sans matériel du tout, quoi.
D'accord.
Vraiment, je suis arrivé à Clermont le jour du confinement.
Oui, donc tout ton matériel est encore resté vers Nantes, quoi.
Non, en fait, tout mon matériel est à Lyon, du coup,
Italien,
chez
d'accord,
moi.
ok,
Ouais.
ouais, ok, d'accord. Ok, mais donc, comment dire, tu t'es imposé quand même comment dire, un entraînement physique particulier ou non, enfin,
On va dire que ça fait quelques années quand même que j'ai bien relâché au niveau entraînement et tout. Après, oui, quand il a fallu vraiment bosser avec United, j'ai beaucoup bossé à ce moment-là. Et puis après, en fait, au final, je faisais beaucoup, beaucoup de concerts, et c'était plus parmi ces concerts-là que je voyais les erreurs que je faisais, et qu'il fallait pas que je reproduise au prochain. Et puis au final, les concerts sont devenus un peu des répètes
d'accord.
avec
donc,
le temps.
Donc sur une période normale, c'est l'enchaînement soit des concerts, soit des sessions de studio qui font que tu maintiens ton niveau, quoi.
Oui, enfin,
tu travailles, quoi. Ok. D'accord. Ouais. D'accord. Donc t'es pas entouré de casseroles à taper dessus.
Non. Je me laisse du temps pour mes autres passions. D'accord. Ma vie plus normale, on va dire.
D'accord. Non, mais c'est intéressant de savoir justement. certains ont besoin de pratiquer beaucoup et d'autres beaucoup moins.
Ouais, enfin, non, je pourrais bosser bien plus. Hein, ça, c'est clair, mais j'ai un petit côté feignant quand même. Faut l'avouer.
Tu le paieras peut-être un peu plus tard, mais ça c'est pas très grave. On aura le temps de s'y remettre. Donc revenons donc à ce projet One Life All In. Comment t'es monté à bord?
Alors c'est Franck, le bassiste en fait du groupe, qui a créé le groupe à la base avec Clem, le guitariste.
Ouais.
Et ils jouaient tous les deux dans un groupe qui s'appelle Super Zone de Trouf.
Ouais.
Et ils ont fait la première partie de Spell Monster, donc un groupe de hardcore de Cleveland, et le chanteur des Spell Monster, donc c'était Don. Ils ont sympathisé à ce moment-là. Ils avaient demandé de faire un guest à Don sur un album des Seekers. Mmh. Il a accepté. Ils ont gardé contact et tout. Puis en fait, ils se sont dit, on fait un. Franck a proposé à ce moment-là vraiment de former un groupe. Et ils avaient besoin de batteur, puis via un ami en commun, en fait, on nous a présenté, puis voilà. Ça, c'était en 2016.
Donc là aussi, un style plus orienté à l'origine, en tout cas hardcore,
ouais.
Assez différent de tes dernières choses, même si peut-être finalement, si je réécoute ce que tu disais au début, c'est un peu un petit retour au tes débuts punk hardcore, non?
Ouais, bah du coup, oui, c'est beaucoup plus proche de mon premier groupe quand j'avais 13-14 ans, ouais, par là, que le mien, il n'y a pas photo, c'est clair.
D'accord. Donc ça a été voilà, vous êtes rencontrés, ça a collé au niveau humain, et vous avez échangé des titres. T'as joué dessus façon, ou?
Ouais. Niveau batterie, c'est cool parce que j'ai carte blanche. Voilà. Après, de toute façon, la création des morceaux, c'est Clem et Franck qui le font, qui font 90% du boulot, quoi, vraiment musical. En tout cas, après, ils envoient à Don qui écrit les paroles.
Mm-hmm.
Et puis, en fait, quand ils envoient, Clem a déjà programmé une batterie de base, on va dire, sur ordinateur, en fait, avec ses logiciels.
Mmh.
Et puis moi, après, je mets ma touche à la fin. Mais en fait, le truc, c'est que on n'est pas un groupe qui répète de base, aussi du fait qu'on n'est pas basé
forcément.
Mmh. Et puis, après, en studio, c'est juste une laisse carte blanche pour les breaks, tout ça. Et voilà, quoi, je mets ma petite touche. Et puis voilà, quoi, musicalement, comment ça se passe, le fonctionnement du groupe.
T'as toujours eu l'habitude de fonctionner comme ça? C'est-à-dire que les groupes te laissaient pas mal de liberté ou...
Ça dépend.
Ça dépend.
Si c'est un groupe dans lequel je suis vraiment, et que c'est pas juste un remplacement, oui, j'ai plus de liberté.
Ouais, si Cultura, ils t'ont pas donné trop de liberté, c'est clair, mais c'était pas l'objectif.
Ils m'en ont pas donné, puis de toute façon, enfin... Je me serais senti mal à l'aise même de l'en prendre.
Ouais.
Les parties sont tellement mythiques, on va dire, déjà connues, en fait, par le public, que je veux pas arriver, le mec, personne ne le connaît, et en plus faire autre chose. C'est des parties qui marchent, et tout, donc, y a pas de raison de modifier.
D'accord. Donc en 2017, vous avez sorti un premier EP qui s'appelait The A7 Session.
Ouais.
Quel souvenir t'en gardes de toute cette période-là?
C'était la première fois déjà où j'ai rencontré Don, donc ça c'était cool. Après ça s'est fait très 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 rapidement l'enregistrement. Je crois les parties batterie en 1h30 c'était plié. Après c'est que 6 morceaux, donc et puis c'est du punk, donc ça va très vite. Vite, ouais. Et puis au final on a fait nos premiers concerts seulement en 2019, si je dis pas n'importe quoi. Pareil, hein, dû au fait que chacun a son emploi du temps dans le groupe.
Mmh.
et que Don, pareil, habite loin. Mais non, c'était cool de voir le projet prendre vie un peu, quoi. D'entendre au final les morceaux avec un gros son et tout, c'était sympa.
D'accord. Et toi, au niveau donc du travail, de proposer tes éléments de batterie, c'est quelque chose que tu... Ça te prend beaucoup de temps, c'est très naturel, ça dépend des titres ou...
Ça dépend, mais même si je passe pas beaucoup de temps spécialement à, comment dire, à à faire des entraînements, quoi, à jouer de la batterie. Au final, dans mon coin, je passe beaucoup de temps, par contre, à réfléchir à quelle idée je peux faire et tout ça. Et en fait, j'ai déjà une idée, on va dire à 95%, au moment de rentrer dans le studio, je sais à 95% ce que je vais faire.
D'accord.
J'ai pas trop de liberté, c'est juste que j'ai réfléchi vraiment, et puis après, bah, au final, j'arrive à le placer en studio, voilà, quoi.
Et ces réflexions-là, enfin, tu les gardes dans ton esprit et tu les réutilises quand tu as besoin, ou tu as un petit outil, je sais pas, tu as un dictaphone à côté de toi où tu notes des
Ah
rythmes
non,
ou des idées, sauf une ligne?
non, c'est la mémoire, ouais, c'est
D'accord.
tout de mémoire, au final.
En discutant avec d'autres batteurs, il y en a certains qui disaient que le fait d'être batteur fait que tout dans leur vie quotidienne, si tu veux, prend un rythme. Si tu veux, ils sont très sensibles à tout ce qui est rythme autour d'eux. Tu vois, est-ce que c'est le cas aussi de toi ou pas du tout?
Pas tant que ça. Enfin, je sais pas qu'est-ce qu'on entend par là. Si le fait d'entendre la porte qui claque, ça va pas me donner envie de taper un rythme ou je sais pas. Non, après, c'est sûr que oui, j'ai le même tic que beaucoup de batteurs qui agacent le monde, à savoir taper des mains sur les jambes, ou de taper, quand tu es assis, avoir les jambes un peu à taper du rythme comme ça. Mais non, après. J'ai pas l'esthétique dont tu parles dans la question.
D'accord. Donc, un premier EP, 6 titres, quelques concerts dès que vous pouviez, donc dès que Don venait de Cleveland, etc. Comme tu le disais, les concerts, c'était un peu la première fois où pas vous retrouviez, parce que mais que l'espèce de magie du groupe démarrait. Ces concerts, ça a généré une dynamique particulière ou...
Bah ouais, c'était cool, quoi, vraiment de passer plusieurs jours. C'était une semaine, mais une semaine dans un van, bah forcément, disons que c'était un peu le tout ou double. En une semaine ça se passe pas, c'est sûr que ça allait mal se passer après, mais au final, tout le monde s'est super bien entendu. Et puis en plus de ça, la dernière date de la tournée, c'était à Lyon, donc chez nous, avec Clem et Franck, et avec Sikoff Idol. Donc c'était l'histoire de finir en beauté, quoi. Et les Sikoff, c'était vraiment excellent comme truc,
Alors,
comme expérience.
toi, t'as une grosse expérience donc sur des groupes internationaux de très grands, enfin de grosse envergure. Partager la scène ou voir bosser des mecs comme Sikoff Idol, ça, on apprend. Enfin, ça, enfin, je sais pas,
Bah,
ça.
c'est les papas, hein, de toute façon. Après, on apprend oui et non. Bah, disons que leur musique parle d'elle-même, de toute façon. Enfin, moi, j'adore, je suis fan. Après, la façon de fonctionner, en tout cas en tournée, ils ont un peu, tous les groupes qui tournent ont à peu près la même, hein. De toute façon, c'est sûr. Ils ont quelqu'un qui installe le matos pour eux. Et puis, encore, ça, c'est cool parce qu'ils font eux-mêmes leur balance, quand même. Et ça j'ai du respect pour les mecs qui entendent tourner derrière eux, mais qui font encore leur balance. C'est pas des mecs qui en ont rien à foutre, comme beaucoup, comme ça arrive souvent. C'est pas des blasés, ils ont pas l'air blasés du tout
D'accord.
de ce mode de vie. Donc ça, c'est vraiment gros respect pour ça.
Et sur, enfin, tu récupères pas des éléments, je sais pas, sur le set de batterie du mec ou la façon dont il apporte telle ou telle partie ou.
Bon, pas vraiment, au final. Après, Sikoff, bah, enfin, j'adore le batteur, hein, c'est sûr, mais c'est pour le coup, c'est pas le batteur qui est en avant dans le groupe, quoi.
Non,
Vraiment,
bien sûr. Ouais.
c'est plus le groupe lui-même. Mais non, après, je suis pas trop un batteur fan de batteur, justement.
D'accord.
Je suis pas trop les solos de batterie et tout, ça me fait vite chier. Je préfère largement un batteur qui va être au service des autres musiciens, justement. Je préfère faire la base, et mettre une bonne base, on va dire, pour les autres, plutôt que de faire mon solo toutes les 2 secondes et tout ça.
D'accord, et donc les installations de batterie assez délirantes avec je sais pas combien d'instruments tout autour de toi, c'est
Ouais,
pas un
non,
kiff
ça c'est
particulier.
pas mon
D'accord.
délire. Bah,
D'accord.
en plus, vu la musique que je faisais avec Binatil ou tout ça, j'aurais pu avoir 2 grosses caisses, ou j'ai déjà eu quelques fois et tout, mais je me sens plus à l'aise au final avec un petit kit, et ça me suffit. Le kit que j'ai me suffit, au
D'accord.
final.
Donc voilà, vous aviez donc un premier EP sous le bras, quelques concerts, et donc vous attaquez un. Pour vous donner la suite, quel est ce deuxième EP, 7 titres cette fois-ci, qui s'appelle donc Letter of Forgiveness. Pourquoi un EP et pas un album directement? Vous étiez pas si loin, vous avez 7 titres, on peut en rajouter 2-3 et ça en faisait.
Ouais, c'est vrai. Et ben non, c'était aussi, en fait, comment dire, disons que c'est quand on a un groupe qui est, au final, ça reste un groupe qui débute en soi. Certes, on a mis le temps, mais du fait des distances et des, comme je disais, des occupations de chacun, on peut pas aller bien plus vite. Et on se disait, un EP, c'est pas mal encore pour un groupe qui débute, un deuxième. Mais il sort aujourd'hui même, du coup. Mais par contre, oui, un album, il en est question. Et vu la situation actuelle, le confinement, etc., Clem, qui est le compositeur principal du groupe, a bien avancé à ce sujet, justement. Donc normalement, si tout se passe bien, je pense qu'il y aura un album l'année prochaine, ouais, qui va sortir, un album complet, cette fois.
D'accord. A priori, les conditions d'enregistrement donc chez vous à Lyon de The A-Session, A7 ouais. Session, vous avez bien plu puisque vous avez refait les mêmes choses, donc
ouais,
en enregistrement, etc., avec Thibaut Bernard au Convo Sound Studio. On se dit toujours, est-ce que on reste dans un endroit où on est à l'aise, tout va bien, on connaît, ou on essaye autre chose pour changer le quotidien. Vous vous êtes posé la question ou pas spécialement?
Pas pour l'instant en tout cas. Après, Thibaut, c'est un de mes meilleurs amis en fait, j'avoue, on essaye de se refiler des plans entre nous. Et en fait, on a vraiment l'habitude de bosser ensemble. J'enregistre beaucoup avec lui et voilà. Et on va dire que c'était largement le plus simple. En termes de rapport qualité-prix, en plus, il n'y a pas photo. On savait qu'on allait être satisfait à 100%. Il était question peut-être d'enregistrer justement le prochain album à Cleveland cette fois. Parce qu'il y a ça aussi qui est plus pratique. C'est plus pratique de faire venir un mec en France que trois mecs aux États-Unis. Mais pour le coup, il est peut-être question de faire le prochain aux États-Unis. On sait pas trop encore. Après, ça va dépendre évidemment du corona et du futur vis-à-vis de ça.
Et parfois aussi, les groupes se disent, bon, on fait un enregistrement entre guillemets au plus simple avec un mec qu'on connaît, économique, et on sait la qualité. Mais par contre, on fait le mastering avec un grand nom.
Thibaut, en fait, il sait gérer tout ça. Puis au final, les grands noms, je trouve qu'il y a beaucoup d'artistes, de groupes qui se reposent sur un grand nom et tout. Et au final, je trouve que ça apporte pas grand-chose.
D'accord, non, mais...
Enfin, je préfère avoir un gros son avec Thibaut, qui, pour moi, a vraiment un très haut niveau. Alors après, oui, peut-être qu'il n'a pas la réputation d'un Colin Richardson ou je sais pas quoi, mais en fait ça nous convient parfaitement, quoi. Vraiment, on s'est pas trop posé la question vis-à-vis de ça.
Quand dans son groupe on a une référence comme Don au chant, et que donc on sait c'est assez normal, c'est lui qui s'approprie les paroles et qui les rédige, ça discute un peu thématique avec lui ou pas du tout?
Justement, pour le coup, on lui laisse vraiment carte blanche et on a une confiance parfaite, quoi, en lui. De toute façon, à titre perso, de toute façon, j'ai jamais été attiré par les paroles de n'importe quel groupe, en fait. Au final, c'est pas un truc qui m'intéresse. Mon langage, moi, c'est plus la musique. Après, c'est sûr, à titre perso, jamais je jouerai avec un groupe qui a des paroles racistes
Oui, faut que tu te reconnaisses un minimum, mais t'as pas besoin d'avoir une patte dessus.
Non.
D'accord.
Chacun a son identité et donne à la sienne, ouais, justement.
Question peut-être aussi assez que tu vas peut-être trouver assez naïve. Est-ce que en tant que batteur, tu dois à un moment ou à un autre développer une relation un peu particulière avec le bassiste, avec l'autre
Pour le coup, je crois que je suis un des rares batteurs qui demande pas de basse dans les retours, par exemple. En fait, je suis plus avec le gratteux. Après, ça dépend de la musique, évidemment. Mais si on avait peut-être une relation particulière avec Phil dans Lofo, faut dire qu'avant Binaked, par exemple, la basse faisait plus office de troisième guitare. En fait, c'est des parties qui suivaient vraiment la guitare et tout. Donc, sans vouloir insulter mais les bassistes de Binaked, pas du tout. C'est pas ce qui avait le plus d'intérêt, alors que dans Lofo, il y a plus de place et tout. Donc, en effet, là, j'aurais peut-être pu le demander à l'avoir en retour, mais au final, juste un regard, en fait, on savait exactement où on en était et tout. On échangeait beaucoup en regard.
D'accord. Non, mais là aussi, c'est l'approche que chacun prend, enfin, personnalise selon ses besoins, donc c'est ça qui est intéressant.
Et puis aussi, en fait, je pars du principe que pour les retours, de toute façon, moins j'en ai, mieux ça sonne. Au moins, il n'y a pas de pollution avec un énorme volume dans les retours de tous les instruments qui au final, se retrouvent en façade parce qu'il est repiqué par des micro-cascades et tout ça, quoi.
S'il y a une moyenne possible, combien tu fais de prises par titre en général?
Ça dépend. En fait, de toute façon, je fais très rarement des prises en one shot. Mmh. Je veux dire, je fais pas de prises d'un coup avec. D'un coup, je joue tout le morceau, je fais plus partie par partie au final.
D'accord.
Mais ça dépend des groupes et du fonctionnement. Après, c'est sûr que quand c'est un groupe où je suis le batteur vraiment, donc disons que je dépends que de mon goût, en fait, de mon propre goût, où je dois pas satisfaire à un groupe qui m'engage, ça va quand même bien plus vite au final. Mais je pense que One Life On In, c'est vraiment les enregistrements qui ont été le plus rapide pour moi.
Ouais. Et donc, par exemple, donc un groupe où tu as une maîtrise contrôle total comme One Life All In, quand tu disais, bon, tu as une idée assez précise de ce que tu veux, t'enregistres des alternatives ou assez rapidement tu te fixes sur ce que tu veux et on reste là-dessus?
Non, en général, on reste. La première idée en général est toujours bonne. Au final, la première idée, c'est ce qui vient le plus naturellement. Et...
D'accord.
En général, c'est ce qui fonctionne, ouais.
Un élément important, c'est toujours le visuel, c'est le premier contact avec l'acheteur potentiel. Donc là, vous avez bossé avec un type qui s'appelle Dave Quigel, d'après ce que j'ai trouvé. Donc c'est un visuel assez, comment dire, floral.
Ouais.
Tu peux nous en dire un peu plus sur comment ça s'est développé?
En fait, c'est Don, c'est un ami de Don, en fait, ce fameux Dave. Don nous a envoyé un mail un jour comme ça. Écoutez, j'ai un pote qui a fait ça, est-ce que ça vous dit pas qu'on l'utilise pour la Pojex? Et puis, nous, on a tous adoré, en fait. Ça s'est très vite fait, mais en soi, la pochette n'a pas de rapport, en fait, avec la musique du groupe.
C'est ça, ouais.
C'est juste qu'on trouvait ça classe. Et puis, voilà.
Tu sais pas si son pote, c'est pas un tatoueur? Je trouve qu'il y a un aspect assez tatouage, ouais.
Ah oui, c'est un tatoueur, mais il est tatoueur illustrateur, il a fait des pochettes, des affiches de concert. Mmh. Pour les Foo Fighters et Queen of the Stone ou des groupes comme ça, ouais.
Ouais, donc belle référence.
Gros CV, ouais.
D'accord, donc le visuel vous a plu et puis pas forcément besoin d'avoir de rentrer dans les codes du genre, quoi.
Non.
Ok.
Le visuel est cool pour nous, donc très bien, ça suffisait.
Autre élément visuel important, les clips. Donc ouais. Vous en avez sorti un récemment pour le titre éponyme Letter of Forgiveness.
Ouais.
En général, qu'est-ce que tu peux nous dire en général de ce tournage et est-ce que c'est un exercice que tu apprécies?
J'apprécie, oui, c'est toujours cool, hein, au final de se faire filmer, il n'y a pas de problème. On a fait ça donc au Warp Audio, tout avec les potes, quoi. Le Warp Audio, c'est une forme de collègue. Et puis, j'ai oublié son nom.
Corentin Lecoq?
Et moi.
Corentin Lecoq?
Mieux passé que moi. Exactement, c'est lui qui nous a fait donc le clip et puis il avait déjà bossé avec Monstromo et tout ça. On voulait vraiment un clip noir et blanc, enfin grande dominante noir et blanc. Et puis vu ce qu'il avait fait avec Monstromo, justement, on avait trouvé ça vraiment cool. Donc ça s'y prêtait, on avait vraiment bossé avec lui. Puis il était super efficace, quoi, vraiment super pro, super sympa à l'écoute et tout. Donc c'était vraiment bien avec lui.
Ça c'est quoi, une journée ou plus?
Une matinée.
Parce que le côté qui peut être fatigant, c'est de refaire 25 000 fois le même truc, quoi.
Ouais, mais ça, c'est comme tous les clips. Hein. De toute façon, chaque musicien, on va dire, fait 3-4 prises juste de lui, puis après 3-4 prises avec tout le groupe, puis le temps que ça se mette en place et tout ça, ouais. Au final, le morceau, on l'a facilement entendu entre 20 et 30 fois au cours de du tournage, et puis tout le monde en a un peu marre de l'entendre au final. Ça s'est très bien passé.
La plupart du temps, quelques jours ou quelques semaines après tes enregistrements, t'es du genre à passer l'album en question régulièrement, je sais pas, dans ta bagnole ou chez toi, ou t'as besoin de sortir justement, de faire couper avec ce que tu viens de réaliser pendant quelques semaines pour pouvoir t'y remettre avec plaisir.
Je l'écoute quand même quelques temps après. Je l'écoute quelques jours, on va dire, histoire de fêter ça, de marquer ça, mais après non, je suis pas du genre à écouter ce que j'ai fait Là, ça fait très 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 longtemps que j'ai pas écouté Be Naked ou enfin les albums où je suis dessus, en tout cas de venir. Et non, je suis pas du genre à m'écouter, en tout cas.
Ok. Bah pour terminer, juste avant après de parler plus sur tes goûts musicaux, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là? Donc il y avait un festival qui devait dans pas de 30 ans, mais qui est
Ouais.
forcément comme à sauter comme à peu près tout ce qui bouge. Vous
Effectivement.
avez des perspectives ou comment ça se passe?
Et ben ouais, comme je disais, donc un album, ça serait pas mal qu'il sorte l'année prochaine. Peut-être trouver un label, ça serait cool aussi. Un booker, donc on a un pote, Marco, allemand, qui nous fait tourner. Mais après, si on peut avoir d'autres personnes aussi pour nous aider, ça serait cool. Et puis voilà, quoi. Ouais, tourner plus, c'est sûr. Et puis, ben ouais, comme je dis, l'album 2021, ouais.
D'accord. Au niveau, tu disais label, vous avez démarché ou vous avez deux EP sous les bras, ça va peut-être un peu plus.
Bah justement aussi, c'est ça. Maintenant qu'on a le deuxième, ça va faire une vision un peu plus globale pour les labels. Et donc, bah, on va s'en servir pour démarcher, ouais, justement.
D'accord. Et toi, enfin sur ce que tu peux nous dire, s'il n'y a pas de secret défense, t'as des projets, ne serait-ce que de sessions en cours ou?
Justement, en fait, à vrai dire, oui, j'ai un projet, mais pour le coup, c'est secret défense
D'accord,
et tout.
bon.
Enfin, j'ai contrat signé et tout.
Pas de souci,
Mais
non,
ouais,
mais on suivra ton actualité.
Yes.
Donc plus sur des questions sur ta carrière ou tes goûts. Donc comme on disait, t'as évolué dans des groupes très différents, entre un Sabaton, un Sepultura, dans Be Naked, c'est très différent. Dans des genres très différents.
Ah, oui, complètement, ouais.
Parce qu'effectivement, une rythmique de Sabaton, c'est pas la même que Be Naked, c'est peut-être un peu plus calme et un peu plus reposant. Est-ce que chaque fois tu arrives à prendre un certain plaisir
Ah
ou
bah oui, encore, oui. Sinon je ferais pas ça. Mais non, après c'est sûr que chaque groupe a son fonctionnement différent aussi.
d'accord.
Mais oui, après c'est Binati qui m'a le plus formé, on va dire, le plus influencé, c'est sûr. Parce que c'est un groupe d'amis. Donc je dis pas qu'il y a des groupes où les mecs s'entendent pas, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est plus d'abord un groupe d'amis qui fait de la musique plutôt qu'un groupe de musiciens qui ensuite deviennent amis. Et c'est pour ça qu'avec Binati, c'était vraiment particulier. Je pense que le seul autre groupe dans lequel j'ai évolué où c'est vraiment le même esprit, c'est Lofo. Enfin,
Bien sûr.
Lofofara. Et ça, c'était vraiment deux groupes. C'est les deux groupes, je pense, qui m'ont le plus marqué humainement, hein, c'est clair. On s'appelle très très souvent. Enfin, les Binati, ça reste mes meilleurs amis, quoi, vraiment. On se fait des visios pendant ce confinement. Et puis là, j'étais avec Phil encore au téléphone hier de Lofo. Donc ouais, mais c'est marrant de voir comme chaque groupe fonctionne, justement, j'aime bien ça.
D'accord. À la lecture de ta page Wikipédia, c'est comme sympa d'avoir une page Wikipédia. Donc il est narré donc justement l'opportunité que tu as prise de jouer avec Sepultura, avec le donc
Ouais.
l'idée d'avoir un temps très court pour apprendre leur set. Tu peux nous en dire un peu plus, enfin sans dévoiler de secret là aussi, sur le challenge que ça a été d'apprendre aussi vite des titres qui sont en plus sont loin d'être simples.
Eh ben, pour le coup, ouais, j'avais eu 24 heures, je crois. En fait, ce qui s'est passé, c'est culturel, bah, c'est Loïc Azacandé, le batteur, qui s'est cassé le doigt à un concert à Bourg-en-Bresse, en jouant, en fait, pendant le concert. Donc, bah, là, ils étaient à deux doigts d'annuler forcément le reste de la tournée. Et ben, j'ai un ami, en fait, Michel, qui joue dans Aggressor en ce moment, qui était dans Seven Gates à l'époque. Guitariste, très bon guitariste, et qui a été voir le tour manager et qui a dit au culot, bah, écoutez, j'ai un pote qui peut le faire dès demain. Au moins, vous n'annulez pas la tournée. Et puis, quand Michel m'a appelé, moi, il était 4 heures du mat, il m'a réveillé, je lui ai dit, ah, c'est bon, tais-toi, t'es bourré, tu dis une connerie, j'ai raccroché au nez. Il m'a rappelé, il m'a dit, non, non, c'est vrai. Et puis, bah, en effet, Rink, le tour manager de Sepultura, m'a appelé. Et puis, bah, le soir même, j'étais avec eux. On a répété dans le garage d'un fan du groupe, en fait, vers Barcelone. Et puis on jouait. Et voilà.
Mais t'étais un gros fan et tu connaissais le rythmique par cœur
Bah,
ou?
en fait, on va dire, je connaissais d'oreille déjà une dizaine de morceaux, au moins, je pense, sur la setlist. Après, je crois que y en a peut-être un ou deux que je leur ai proposé de jouer, qu'ils ont accepté, parce que c'était plus simple aussi de modifier la setlist. Et puis bah, après, j'en ai appris ouais, une dizaine aussi dans la journée. Et puis
Ah,
voilà.
d'accord.
Mais après, vu que je connaissais, quand tu commences à bosser à un groupe et que tu vois comment il compose et tout, comment dire, tu vois
T'as
le
des
fonctionnement
patterns?
qu'il a.
T'as des
Oui,
patterns qui,
voilà,
d'accord, ok.
ouais.
Et
Donc,
a posteriori, donc le premier show que tu fais avec eux, donc tu t'en menais pas large ou c'est de l'inconscience ou c'est de la
non, ouais,
ou à l'inverse de la confiance?
non, c'était, comment dire, non, j'avais juste hâte que ça se fasse, en fait. Mais je suis tout le temps pareil. Hein. Je fais vite fait un peu de l'huile quand même pour le premier concert à chaque fois que je joue avec un groupe, histoire de se dire bon, c'est passé. Et j'ai plus la pression du premier concert et je me sens plus à l'aise après.
D'accord.
Mais pour Sepultura, de toute façon, en fait, j'étais tellement content et pour le coup, j'étais à peu près sûr. J'étais confiant quand même parce que c'est des morceaux que j'ai écoutés longtemps. Donc,
Ok.
je me suis dit bon, il n'y a pas trop de risques que je me foire et tout ça. Et puis,
D'accord.
au
Non, mais
final,
comme
tout
quoi,
s'est.
ça a fait une belle opportunité.
Ah oui, carrément, c'est clair.
Écoute, un grand merci d'avoir pris le temps de nous répondre.
Ah bah merci à toi, c'était cool.
Et puis, on va suivre l'actualité du groupe et ton actualité dans les semaines
Ouais,
qui
merci
viennent
bien.
via les réseaux sociaux.
Eh ben nickel, merci beaucoup.
Merci à toi et à bientôt.
Eh ben merci, à
Ciao.
plus, salut.